Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pères, chers confrères et séminaristes, mes chères sœurs, chers fidèles, c'est à la demande du Père Marziac lui-même que je vous adresse la parole en mi-retraite, et puisque c'est le Père qui fait l'élevage des vaches spirituelles, j'entends les retraitants, il a bien le droit aux prémices du lait. J'aimerais mieux dire les taureaux, mais puisque les taureaux ne donnent pas de lait, il faut bien que je dise les vaches. Et qu'il me soit permis de remercier, en public alors, ici et maintenant, de remercier le Père Marziac de tout ce qu'il fait pour la fraternité Saint-Pitis, en mettant à sa disposition sa maison de retraite, sa belle maison de retraite, son temps, ses énergies, et pas le moindre, ses sœurs dévouées, pendant tout le mois d'août. Ce n'est pas rien, prêcher les 30 jours, donner les 30 jours. Mais pour la fraternité Saint-Pédis, c'est incontestablement un bienfait insigne. Et nous, de la part de tous les retraitants, je tiens à remercier le Père Marziac et remercier aussi les sœurs, les 5 sœurs qui travaillent de façon si effacée et si dévouée pour les retraitants. On le leur aura peut-être dit, mais on peut bien le leur redire, que lorsque les 30 jours se donnent dans une maison de retraite de la fraternité, où il n'y a pas des sœurs comme elles, le temps libre des retraitants est plutôt diminué par la nécessité de faire les travaux, les travaux physiques, les travaux matériels. Et cela laisse à la retraite. Et alors, chères sœurs, soyez sûrs que nous vous sommes tous très reconnaissants de ce que vous mettez à notre disposition à côté du Père pour nous permettre de faire ces grands exercices. Grands exercices. Je ne sais pas, chers fidèles, si vous les... Je ne sais pas, chers fidèles, si vous les avez tous faits vous-même. Dans les chapelles traditionnalistes, c'est une chose merveilleuse toujours de voir tant d'enfants. Il est parfois un peu merveilleux de les entendre. Mais nous félicitons toujours les jeunes mères qui ont aujourd'hui, même aujourd'hui, le courage de mettre au monde, et les jeunes pères aussi, les jeunes familles, de mettre au monde les enfants nombreux. Et ces jeunes parents ont bien raison, car Dieu et les Saintes Vierges sont bien plus forts que le démon. Le démon va tracasser leurs enfants, c'est sûr. Il va tout mettre en jeu, et Dieu sait s'il aujourd'hui il en dispose de choses pour menacer l'âme de ses enfants. Mais à condition de faire du foyer une forteresse de Dieu et une forteresse de la prière, on est plus fort que le diable quand même. Et alors, les jeunes parents chrétiens et catholiques ont bien raison d'avoir ces enfants qui sont voulus par Dieu. Et ils ont bien raison aussi de les amener à la messe. Prions qu'ils ne fassent pas trop de concurrence trop tôt aux prêtres. Alors, je ne sais pas, chers fidèles, si vous avez tous fait la retraite. Je me doute que le Père Marziac aura voulu que je vous en dise peut-être deux mots. Mais si vous voici, donc, je suppose bien, dans la région, pas trop loin de la maison, si vous n'avez pas encore profité de l'occasion pour faire ces 5 jours avec Saint Ignace, eh bien, nous vous y encourageons. La retraite de Saint Ignace, c'est comme un double whisky. Or, aujourd'hui, on aime bien le whisky. Le whisky devient peut-être de plus en plus populaire. Eh bien, la retraite, c'est le double whisky spirituel. N'est-ce pas? Un tonifiant très fort pour la vie spirituelle. Vous n'imaginez, vous ne pouvez pas, tant que vous ne l'avez pas, vous ne les avez pas suivis vous-même, ces exercices, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela représente. Mais une fois que vous les avez faits, normalement, vous comprenez bien. Et il y a beaucoup de choses que vous comprenez que vous n'aviez pas jusque-là compris. Et Dieu sait, d'ici, dans ce monde d'aujourd'hui, on a besoin d'être détoxifié. Il y a tellement d'intoxicants, surtout les choses qui empoisonnent, surtout les empoisonneurs spirituels et intellectuels et moraux, qui sont beaucoup pires même que toutes les substances toxiques matérielles. Bien sûr, la pollution matérielle que nous connaissons tous les jours davantage, il suffit d'élever, de monter en avion au-dessus d'un pays moderne occidental pour voir cette brume brunâtre qui s'étend partout sur la face de la Terre. Et on se rend compte, quand on descend en avion, ce que c'est qu'on respire à toute heure de la journée, à cause de toutes ces voitures, bien sûr. Voitures que l'on aurait pu remplacer, que la science moderne de Nikola Tesla, la science moderne aurait bien pu remplacer par des moteurs bien moins toxiques. Mais les rois du pétrole n'ont pas voulu, parce qu'on éviterait ainsi d'être soumis au pétrole et aux rois du pétrole, on contournerait le pétrole. Alors les rois du pétrole n'ont pas voulu, c'est par là que leur vient une grande partie de leur pouvoir. Et alors cette intoxication et physique et morale du monde moderne est voulue, c'est délibéré, c'est voulu. Et c'est nous, et c'est vous, mes chers fidèles, c'est nous tous qui devez en être les victimes. On vous veut des abattus, des amoindris, des indébilités, des débilités, des débiles. On vous veut des débiles physiques et des débiles mentaux, et surtout des débiles spirituels. On vous veut le bétail de l'Antichrist. Et c'est à cela qu'on vous prépare. On vous enlève les moyens de vous raffermir, et physiquement et spirituellement. Et Dieu permet cela pour nos péchés, pour les péchés nombreux et profonds du monde moderne. C'est une punition. Un châtiment qui est déjà là. Pour ne rien dire du châtiment qui vient encore, cela c'est une autre question. Mais Dieu ne permet jamais que ceux qui le cherchent et qui le veulent ne puissent pas le trouver. Il y a toujours, même dans les circonstances les plus terribles et apparemment les plus coupées de Dieu, il y a toujours le moyen de retrouver Dieu. Vous autres, qui vous trouvez ici, dans une chapelle de la tradition catholique, certainement que vous ne l'avez pas complètement perdu, loin de là. Et aussi, on ne peut pas dire que vous ne voulez pas de lui, autrement vous ne seriez pas ici. Il serait bien plus facile d'assister à une chapelle de la nouvelle religion, la religion où l'homme est à la place de Dieu, et où tout est si facile, où tellement plus facile que dans l'ancienne religion, la vraie religion, la religion d'hier et la religion catholique de demain. Alors si vous êtes là, c'est que vous voulez Dieu. Mais, tout en voulant Dieu, il est fort probable, ceux d'entre vous qui n'avez pas encore fait les exercices de Saint-Ignace, il est fort probable que vous ne vous rendez même pas compte dans quelle mesure le monde moderne, la mentalité moderne, l'esprit moderne et la vie moderne, même à votre insu, vous ont éloigné de Dieu. Vous ne vous en rendez probablement pas compte. Et cela, je peux le dire, parce qu'aux États-Unis, le séminaire là-bas, pendant les vacances du séminaire, où les séméristes ne sont pas là, ou peu en tout cas, nous organisons normalement des exercices spirituels où les laïcs peuvent assister. Et après, alors, ce sont les prêtres du séminaire, et moi-même parfois, qui prêchons, qui donnons ces exercices. Et après, nous recueillons les témoignages des retraitants. Et combien de fois, ces braves mettent par écrit quelques lignes et ils disent là-dedans, je ne me rendais pas compte à quel point je m'étais éloigné de Dieu. Et ce sont de braves gens dont on ne peut absolument pas dire qu'ils sont ennemis de Dieu, ou que ce sont des catholiques paresseux ou des catholiques lâches. La preuve, c'est qu'ils sont venus faire des exercices. Mais en venant faire des exercices et en se remettant à cette école, à cette discipline de la prière et de la pénitence, même si elle ne dure que 5 jours, eh bien cela suffit pour qu'ils se rendent compte à quel point leur vie spirituelle avait glissé, si vous voulez, glissé. On ne se rend pas compte. Le monde moderne, les médias, la télévision, les journaux sont à tel point toxifiants. Toxique, c'est le poison. Ils sont à tel point empoisonnants. C'est tout un environnement, c'est toute une ambiance. C'est tout un monde, évidemment, qui nous entoure et qui s'éloigne de Dieu et qui veut s'éloigner de Dieu. Qui veut déraciner la pensée même de Dieu, des esprits. Qui veut sortir des esprits même la pensée de Dieu. C'est la folie. C'est la démence. Mais, à la fin maintenant de 4 siècles, presque 5 siècles de protestantisme, le mal, les ravages du protestantisme lui-même et des fils du protestantisme, disons le naturalisme, le rationalisme, le libéralisme, et des petits-fils du protestantisme, disons le communisme, l'œcuménisme, le modernisme, tous ces ismes ont fait des ravages dans une telle profondeur dans les esprits que on ne se rend pas compte. Et le pharmacien, je m'en doute, vous aura dit, mais cela ne fait pas de mal qu'un autre vous le dise, Dieu a donné à son Église Saint-Ignace précisément pour faire contrepoids à Luther. Les dates de Luther et de Saint-Ignace coïncident exactement. Et Dieu, qui a su tout, qui sait tout, bien sûr, de toute éternité, il a su que l'homme moderne, et il deviendrait de plus en plus moderne à partir de Luther, si vous voulez, que l'homme moderne aurait toujours plus besoin d'une façon, d'un mécanisme, d'un instrument, d'un moyen de se ressaisir, de se recueillir en lui-même, de recueillir ses facultés, de rentrer en lui-même. Plus le monde moderne avancerait et plus le pauvre homme moderne serait et sera et est distrait et dissipé. Tous ces jouets dont la vie moderne est pleine, n'est-ce pas? Imaginons, remontons, disons, 500 ans, un bâtiment, une grange, comme nous trouvons en face là. Une grange ne serait, il y a 500 ans, probablement pas, n'aurait pas été construite très différemment d'aujourd'hui. On aurait mangé peut-être pas très différemment de ce qu'on mange aujourd'hui. On se serait déplacé bien différemment. Il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses qui ne sont pas différentes. Les choses essentielles, pas différentes. Mais les choses à côté, bien différentes aujourd'hui, et chaque jour plus différentes. Chaque jour, chaque dizaine d'années, les trains glissent de plus en plus vite sur les rails au fond de la propriété ici. C'est maintenant la TGV, etc. Je ne sais pas si la TGV ici, bien ici, probablement. Toujours plus vite, toujours plus distrayant, toujours plus nerveux, toujours plus accaparant, toujours plus encombrant d'une certaine façon. Et alors, les avions, maintenant la Concorde qui traverse l'Atlantique en 3h30, demain ce sera la Concorde ou la Concorde, ou je ne sais pas, on trouvera un super nom pour un super avion qui ira encore plus vite. Et à quoi bon? À quoi bon? Pour pouvoir déjeuner en Europe et puis faire le petit déjeuner aux États-Unis, à quoi bon? Alors, les distractions qui abondent. Et pour cela, la grande nécessité d'un moyen de se recueillir, de se ressaisir. Et ce moyen a été donné à Saint-Ignace, je me doute encore que le Père Benoît vous l'aura dit, a été donné à Saint-Ignace par la Sainte Vierge elle-même. C'est un moyen, les exercices de Saint-Ignace sont un instrument d'une habileté extraordinaire. L'arrangement, l'ordonnance des exercices, les uns et l'ordre des exercices qui, venant comme ils viennent, les uns après les autres, est très psychologique. On dirait, aujourd'hui, on dirait, c'est psychologique. C'est-à-dire, cela va merveilleusement bien. C'est merveilleusement bien adapté à la nature humaine. Et il y a toutes les générations, depuis Saint-Ignace, qui en font la preuve. Il n'y a pas un homme qui aurait pu penser cela. Il fallait que ça vienne de Dieu. C'est tellement profond, tellement efficace, si vous voulez. Et alors, que vous soyez tous et toutes fortement encouragés à participer vous-même à ces exercices. Vous soutenez la maison d'exercice, vous en profitez au moins pour venir assister à la messe dominicale. C'est déjà très intelligent de votre part. Et en tant que retraitant, vous aussi, mes chers fidèles, nous vous remercions de ce que vous soutenez cette maison et de ce que vous la rendre possible, vous aider, vous participer, vous contribuer à la rendre possible. Nous vous en remercions, vous aussi. Mais soyez maintenant assez intelligents pour ne pas venir tous les dimanches à la source sans en boire. Vous avez la source tout près de vous, vous en buvez à petits traits chaque dimanche. Mais pourquoi ne pas en boire à de longues traits et venir ici, faire donc les 5 jours. Vous trouverez, de nombreux retraitants vous le diront, vous trouverez que dès que vous pensez à les faire, dès que vous pensez à venir, il y aura 1000 empêchements. Il y a beaucoup d'empêchements qui surgiront tout d'un coup, comme de nulle part, pour vous empêcher de les faire. Ah, qu'est-ce qu'on dira? Ah, il n'est pas possible pour moi de me libérer. Ah, je dois m'occuper de mon champ. Ah, je viens de m'épouser. Ah, toutes sortes de raisons, comme on en trouve exactement, comme on en trouve dans l'Évangile. Eh bien, ces raisons, ces raisonnements, vous viennent du diable. C'est le diable qui n'aime pas les exercices et qui fera tout pour que vous ne les fassiez pas. Mais alors, passez outre, sachez passer outre, et surmonter, et contourner, et mépriser ces obstacles, ces faux raisonnements par lesquels il cherchera à vous décourager. Et alors, venez vous-même faire ces exercices dont vous devez voir si souvent, dont vous devez voir les autres profiter. Et si vous aviez des difficultés à venir les faire, eh bien, adressez-vous, recourez à la Sainte Vierge, qui vous aidera certainement. Elle sait combien vous êtes menacé dans votre vie quotidienne, combien vos âmes sont menacées, combien vos enfants, ceux qui ont un peu plus âgés entre vous, il est bien possible que vous ayez des enfants, des enfants maintenant adultes, qui se perdent dans les universités, dans les collèges d'aujourd'hui, je ne sais. Vous devez prier pour eux, vous devez obtenir des grâces pour eux. Là encore, venez aux exercices. Mais la Sainte Vierge sait tout cela, elle sait vos besoins, elle connaît intimement vos besoins, et elle sait aussi combien des exercices vous profiteraient. Alors pour les faire, si vous aviez des difficultés à les faire, pour les faire, eh bien, recourez à elle et elle vous aidera. C'est elle, la reine, la mère des exercices, la reine des exercices. C'est elle qui vous aidera et vous pourrez constater vous-même combien les exercices vous aideront vous-même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Eh bien, chers frères, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, nous avons la joie et l'honneur d'avoir aujourd'hui encore pour cette Sainte Messe dominicale Son Excellence Monseigneur Richard Williamson, évêque d'origine anglaise et qui parmi les 4 évêques ont été sacrés par Monsieur Lefebvre. Nous avons la joie de l'avoir parmi nous et qu'il célèbre cette Sainte Messe et nous allons l'écouter avec beaucoup d'attention.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois que c'est parce que le Père Manziac veut encore vous faire voir rouge qu'il me demande encore de dire la messe aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Et l'évangile d'aujourd'hui nous présente alors un de ces miracles de notre Seigneur où ce qui est l'événement physique représente ou a une signification spirituelle, si vous voulez, bien plus étendue, ce qui est normal dans l'Évangile, dans toute la parole de Dieu. Car nous autres hommes, pour ainsi dire, nous ne composons pas les événements. Nous ne faisons que écrire l'histoire des événements après qu'ils se présentent à nous. Mais Dieu, qui est le maître de l'histoire, écrit avec la main de sa providence, pour ainsi dire, les événements même. Alors Dieu n'attend pas que les événements arrivent pour ensuite en tirer la signification qui y est. C'est Dieu qui compose les événements pour y mettre la signification que lui veut par la suite en tirer. Et donc, les événements qui nous sont présentés par la parole de Dieu sont des événements composés par Dieu et dont l'Écriture sainte ne fait que relever la signification qui y a déjà été mise par Dieu. Et c'est pour cela que l'Écriture sainte dépasse de si loin tous les autres livres et toutes les autres histoires. Il n'y a absolument pas de livre d'histoire comme la Bible. Et quand on vient vous dire à la télévision, à la radio, etc., etc., que ceci ou ceci ou cela est faux dans l'Écriture sainte, n'en croyez rien. Fermez la poste tout de suite. On vous ment, ce qui est normal aujourd'hui. Mais admirez les pauvres protestants, certains pauvres protestants, je dis bien pauvres, il ne faut pas être protestant, Mais il faut les admirer et les imiter là où les protestants ont au moins le respect de l'Écriture sainte et le respect de toute parole de l'Écriture sainte. Je veux parler pour les États-Unis. Aux États-Unis, on peut dire que beaucoup des hommes de Dieu, un protestant, ce n'est pas un homme de Dieu, mais s'il parle de Dieu, s'il aime Dieu à sa façon, s'il cherche Dieu à sa façon, c'est d'une certaine façon un homme de Dieu. Bon, alors disons donc, dans ce sens large, homme de Dieu. Il n'est pas possible d'être vraiment homme de Dieu sans être catholique, ça, ce n'est pas possible. Il n'y a que les catholiques qui détiennent la vérité sur Dieu et qui ont le plein accès à Dieu. Soyons-en convaincus. Aujourd'hui, où on nous rabat les oreilles de toutes ces autres religions qui accèdent à Dieu, qui veulent Dieu, qui aiment Dieu, il n'en est rien, ou il n'en est qu'une petite partie. Comment voulez-vous qu'un protestant qui croit au jardin de Gethsemane, donc qui croit à l'Écriture, qui croit que notre Seigneur est passé par le jardin de Gethsemane, donc il croit, un bon protestant croit peut-être que Jésus est Dieu. Et croit alors en lecture sainte, c'est bon. Et croit alors que le Fils de Dieu s'est livré une fois entre les mains de ses ennemis. C'est déjà bien. Ce protestant aura déjà une certaine idée de l'amour de Dieu. Cet amour qui fait qu'il se met entre les mains de ses ennemis pour en être bafoué, déchiré, consumé, etc., etc. Mais ce même protestant, le brave, ne croit pas, c'est normal pour les protestants, en l'Eucharistie. Alors, il a une certaine idée de l'amour de Dieu qui s'est mis entre les mains de ses ennemis une fois au jardin de Gethsemane. Mais combien plus profonde, autrement plus profonde, l'idée de cet amour du catholique qui croit en l'Eucharistie. Car qu'est-ce que veut dire l'Eucharistie? Qu'est-ce que l'Eucharistie? Sinon que chaque fois que la communion est distribuée à une messe, surtout aujourd'hui, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, mais chaque fois que les fidèles accèdent au banc de communion, combien de fois notre Seigneur se met-il corps, âme, sang, corps, sang, âme et divinité, combien de fois se met-il non seulement dans les âmes, se fait-il recevoir dans les âmes indignes de le recevoir, indignes par le péché mortel pas confessé, mais aussi directement aujourd'hui, vous êtes au courant, combien de fois à la distribution sur la communion et ailleurs se met-il directement, maintenant surtout que la communion est dans les mains, combien se livre-t-il à ses pires ennemis pour en être déchiqueté dans la Sainte Hostie par les francs-maçons, par les juifs, par les ennemis que nous connaissons de Dieu et qui paient, qui donnent les 30 pièces d'argent aux catholiques pour recevoir l'hostie et puis pour le porter dans la loge pour qu'ils commettent leur sacrilège. Alors lorsque le catholique pense à cela, et alors que le catholique pense à l'amour de Dieu qui a inventé ce miracle de l'Eucharistie, mais qui aurait cette conséquence, ce miracle, que chacun de 20 siècles, tout le temps, constamment et dans toutes les parties du monde, il y aurait ces sacrilèges commis contre lui, qui donne les 30 pièces d'argent aux catholiques pour recevoir l'hostie et puis pour le porter dans la loge pour qu'ils commettent leur sacrilège. Alors lorsque le catholique pense à cela, et alors que le catholique pense à l'amour de Dieu, qui a inventé ce miracle de l'Eucharistie, mais qui aurait cette conséquence, ce miracle, que chacun de 20 siècles, tout le temps, constamment et dans toutes les parties du monde, il y aurait ces sacrilèges commis contre lui, contre lui-même, contre le sacrement de son amour, contre son propre corps et son et âme et divinité. Alors combien plus profonde l'idée de l'amour de Dieu qu'a le catholique qui comprend alors que le Seigneur, que Jésus, ne s'est pas livré une seule fois entre les mains de ses ennemis, mais des milliers, sinon des millions et des millions de fois. Alors l'amour de Dieu, le protestant, le brave protestant, le protestant le plus brave, il a une certaine idée de l'amour de Dieu. Mais l'idée du catholique, je vous prie. Et quelle est l'idée juste? Bien sûr celle du catholique, parce que l'Eucharistie est vraie, c'est évident. Nous le savons par notre foi. Ce n'est pas évident à Dieu, mais c'est absolument évident à notre foi. Alors, il ne faut pas penser que toutes ces autres religions arrivent même à la cheville de la religion catholique. Et j'entends même ces religions chrétiennes n'arrivent pas à la cheville de la religion catholique. Mais en même temps, là où les catholiques deviennent fous, criminellement fous, les exégètes modernes, les modernistes, tous ces gens qui démantèlent la foi catholique et qui démantèlent et détruisent l'Église catholique. Alors lorsque eux disent, oh l'Écriture sainte, vous savez, oui, enfin, il y a des passages de salut où tout est à prendre au pied de la lettre, mais enfin, il y a d'autres passages où il n'y va pas du salut, ni des vérités du salut. Alors là, vous savez, les écrivains, oui, alors nous autres modernes, nous sommes bien renseignés, et ils sont trompés par ci et par ça. Ce n'est pas important pour le salut, donc on n'a pas besoin de leur en vouloir, parce que, après tout, c'est humain de se tromper, et ils n'avaient pas toutes nos recherches d'aujourd'hui, et tous nos moyens scientifiques de savoir toute la vérité. Alors vous voyez, ce sont de braves types, les évangélistes, mais enfin, etc., etc. Perfidie, les modernistes sont perfides. Perfides parce qu'ils font semblant d'être des amis de Jésus-Christ. Ils font semblant d'être de bons catholiques. Ils préservent les apparences, mais l'intérieur est vermoulu, empoisonné. Alors, admirons les braves protestants. Là où ils savent encore, eux, aux États-Unis par exemple, il y a pas mal d'eux, qui savent encore prendre au pied de la lettre toute parole de l'Écriture sainte, là où les catholiques la trahissent à tout bout de champ. Alors, l'Écriture sainte, donc, dit vrai, dans tout syllabe, dans toute parole, dit vrai et rien que la vérité. Tout au plus, il aurait pu s'y infiltrer quelque erreur dans une traduction, peut-être, tout au plus, et encore. Mais, n'est-ce pas? Les Dead Sea Scrolls, les écritures qu'on a récupérées à côté de la mer morte il y a 20-30 ans. Qumran, ces parchemins, ces papiers, ces papyrus de Qumran. Vous savez que tout ce qui a été publié jusqu'ici montre combien juste est le texte que nous détenons actuellement dans l'Écriture sainte. Nous savons aussi, soyez-en au courant, il y a beaucoup qui n'a pas encore été publié, parce qu'ils n'arrangent pas, surtout les pauvres Israélites, que cela soit publié, parce que si cela a été publié, ça mettrait au jour, ça tirerait au jour, combien les Juifs ont trafiqué l'Ancien Testament, et combien est juste le texte que les chrétiens détiennent encore, par exemple, par le Septuagint, Septante, le texte de Septante. Alors, c'est vous dire que nos textes chrétiens et catholiques, même dans les traductions, même dans le passage du temps, peu d'erreurs s'y sont infiltrées. Et il en est beaucoup plus en sûreté en négligeant la possibilité de cette erreur. Parce qu'en admettant cette possibilité, on met tout en question. Non, 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 non. Très peu, et vraiment, il y a très peu à mettre en question. Et nous attendons que les Juifs de la Terre Sainte qui détiennent les textes du Qumran, nous attendons qu'ils les publient. Jusqu'ici, ils ne veulent pas publier beaucoup. Cela les trahit. Par exemple, le texte dit du prophète Isaïe, vous savez que sur les siècles, sur le passage des siècles, les pauvres juifs incroyants et qui refusent le Messie et qui refusent notre Seigneur et qui refusent l'Église catholique, ils ont trafiqué le texte de l'Ancien Testament pour adoucir et diminuer la portée et la force des prophéties messianiques qui sont là dans le texte. Bon, c'est pour cela, entre d'autres raisons sans doute, que nous ne possédons pas encore, on n'a encore publié ces textes. Mais ces textes montrent, en général, que nos textes catholiques sont très fidèles, très très fidèles. Alors, sachons prendre bien au sérieux l'Écriture sainte et sachons ne pas écouter les voix de sirènes, les voix, j'ai dit, criminelles, qui cherchent à mettre en question, à mettre en doute la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons donc le texte de ce miracle où notre Seigneur ouvre les oreilles et délie la langue d'un sourd muet. C'est dans la Décapole, donc une région païenne, pas une région propre à connaître notre Seigneur, ce que nous pourrions dire de pauvres gens, des pauvres gens sans les lumières de la foi, sans les lumières de la foi telle qu'il était et telle qu'elle était parmi les Juifs, des pauvres païens. Mais ces païens ont évidemment assez de foi pour amener, ils ont entendu parler des miracles de Jésus, ils ont assez de foi pour lui amener un des pauvres, de ces pauvres qui n'entend rien, et parce qu'il n'entend rien, les bruits qui sortent de ses bouches ne ressemblent pas à des mots. C'est le pauvre voit de ses yeux que les autres font bouger la bouche, il essaie de faire sortir quelque chose, mais alors sourd-muet, parce qu'il n'a jamais rien entendu de paroles. Être muet suit être sourd, si on est sourd dès la naissance, c'est complètement. Alors, on lui amène, et notre Seigneur, et on le prie de lui imposer la main, on prie notre Seigneur d'imposer la main. Donc c'est clair que ces pauvres gens ont la foi, ont la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On sent-ils si pauvres que cela? Par la suite, nous saurons, nous verrons que ces pauvres païens dépassent, beaucoup de ces païens dépassent en foi, en vertu, en acceptant le Messie, ils dépassent beaucoup de Juifs. Aujourd'hui, nous autres catholiques, attention que nous ne nous laissions dépasser par ces pauvres protestants dont je vous parlais et dont il y a certainement aux États-Unis au moins, là où il y a plus d'ignorance et donc plus de bonne volonté qu'il ne peut y en avoir ici en Europe, où les protestants sont certainement des hommes décents, des hommes corrects et des hommes à auxquels on peut penser que dans les événements de ces 5-10 années à venir, le Seigneur va donner la foi, on peut bien le penser. Ce sont des hommes droits, parmi eux, pas tous, pas la majorité peut-être. Mais là où les catholiques aux États-Unis sont en grande partie endormis, là où Satan fait des ravages par le satanisme, par la drogue, par la pornographie, par toutes ces immondices, eh bien la musique rock, ce sont des protestants qui sont au courant, qui ont leur doigt sur le pouce des signes du temps, qui sentent ces maux du temps et qui cherchent à les combattre. Et ce sont des protestants qui écrivent aux États-Unis, les protestants droits qui écrivent les meilleurs livres sur la musique rock, par exemple. Et maintenant, il y a quelques catholiques qui commencent à les rattraper, j'y reviens, il y a des catholiques qui écrivent aussi des livres, qui sont au courant, mais pour le sens de l'urgence du mal, beaucoup de protestants dépassent la quasi-totalité des catholiques, à en juger par les actions des catholiques aux États-Unis. Alors je disais, le problème est le suivant, que ces pauvres protestants lorsqu'ils se mettent à analyser un mal profond, comme par exemple la musique rock, ou comme la drogue, ou comme le communisme, ou le satanisme, lorsque les protestants se mettent à analyser cela, ils ne disposent pas de toute la profondeur et justesse et expérience, si vous voulez, de la philosophie et théologie catholique. Et alors, lorsque ces protestants se mettent à analyser ces mots, ils n'arrivent pas à décortiquer le mal. Ils sentent bien le mal. Et ils réagissent, ce qui aussi est très bien. Mais ils sont incapables de comprendre, ils sont incapables de la vue d'ensemble. Ils sentent que cela vient de Satan. Ils sentent toutes sortes de choses. Mais ils n'arrivent pas à vraiment combattre. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas la théologie et la philosophie catholique. Et alors, ces pauvres protestants se battent avec une main liée derrière le dos, pour ainsi dire. Et ceux qui devraient se battre, les catholiques, dorment. En grande partie, il y a la tradition aux États-Unis, il y a les catholiques traditionnalistes. Mais en général, ce n'est pas nous autres qui sommes au créneau. Ce n'est pas nous autres catholiques qui sommes au créneau aux États-Unis. Je parle de façon générale, je ne veux pas déconsidérer les catholiques de la tradition aux États-Unis. Mais c'est un petit exemple de ce que je crois qu'on va voir. Je vous dis, les protestants là-bas sont certainement de meilleure volonté ici, parce que les États-Unis n'ont jamais été un pays catholique. Ici, la France est catholique comme aucun autre pays n'est catholique. Donc on sait, ici on sait, là-bas on ne sait pas. Et alors on est innocent dans son ignorance, l'ignorance est plus facilement innocente là-bas qu'elle ne l'est ici. En tout cas, les sourds-muets. Alors, notre Seigneur l'entraînant hors de la foule à l'écart. Notre Seigneur, qui veut guérir le sourd-muet, l'écarte de la foule. Il lui met les doigts dans les oreilles, il prit de la salive, il lui touche à la langue, il lève les yeux vers le ciel, il gémit, puis il dit, c'est-à-dire ouvre-toi. Notre Seigneur veut montrer à ces païens un principe que nous connaissons très catholique, à savoir la conjonction du physique et du spirituel, du matériel et du spirituel, dont l'homme est matière et esprit. Et alors, tous nos sacrements catholiques sont matière et esprit. Il y a toujours un geste matériel ou une chose matérielle, et puis des paroles et une grâce spirituelle. C'est la conjonction. Tout comme l'homme est composé de matière et d'esprit, les sacrements composés de matière et d'esprit, voici ce que notre Seigneur enseigne aux païens aussi. Et ce geste et cette parole de notre Seigneur est faite, est passée même dans le sacrement de baptême, vous le savez, lorsque le prêtre baptise un petit enfant, il prend de la salive de sa bouche et marque du signe de croix les oreilles et les narines du petit enfant en disant « Ephéta », exactement ce mot. Donc notre Seigneur commence à enseigner le catholicisme aux païens. Et ses oreilles s'ouvrirent et du coup fut dénoué le lien de sa langue et il parlait normalement. Cela, c'est évidemment un miracle. Le sourd-muet, qui est sourd depuis sa naissance, n'a absolument pas pu apprendre à parler. Et s'il parle maintenant parfaitement normalement, c'est que par miracle, toute la langue, toute la connaissance de la langue lui a été infusée. Jésus leur commanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur commandait, plus ces païens proclamaient la chose. Notre Seigneur va en Judée, il va en Galilée, il va à Nazareth, opérer des miracles. Silence. C'est le fils de Joseph, c'est le charpentier. Que voulez-vous que j'y croie? Comment voulez-vous que j'y croie? Oh, le fils de Joseph, allez. Voilà, 30 ans qu'on le connaît dans l'atelier de Joseph et fils, n'est-ce pas? Joseph et fils, compagnie, etc., etc. Les païens proclament la chose. Attention, nous autres catholiques, que nous ne nous laissions pas dépasser par ces pauvres païens. pauvres sont-ils si pauvres que cela? Lorsqu'ils croient et croient en la puissance de Jésus et qu'ils proclament cette puissance, il a bien fait toutes choses, disent ces païens. Qu'est-ce qu'ils disaient à Nazareth? Qu'est-ce qu'ils disent en Judée? Comment pouvons-nous le mettre à mort? Voilà ce qu'ils disent en Judée. Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Réfléchissons deux instants là, n'est-ce pas, le sens, la signification spirituelle de tout cela. Qu'est-ce que c'est que le sourd-muet, si ce n'est l'âme qui est enfermée dans le péché, qui n'entend pas la parole de Dieu, qui n'entend pas Dieu qui lui parle, qui lui appelle, qui lui fait appel pour qu'il se convertisse et pour qu'il sauve son âme. L'âme qui est sourde aux voix, à la voix de Dieu, et donc qui est muet, qui ne sait parler de Dieu, qui ne sait parler à Dieu, qui ne sait pas se confesser, ou qui se confesse, mais que se confesse mal, en ne disant pas tous ses péchés dans la confession, en cachant ou en louvoyant sur les péchés qu'il a commis. Ça, c'est le sourd-muet. Parce que chaque fois qu'il va se confesser, sans doute, sa conscience lui dit, tu devrais dire ça, tu devrais dire ça. Et il ne le dit pas. Ça, c'est un sourd-muet. Et alors, quel malheur que cet être sourd-muet spirituel, autrement plus grave que d'être sourd-muet physique. C'est déjà assez grave, c'est un grand malheur, être sourd-muet physique. Mais combien plus grave être sourd-muet spirituel sur le chemin de l'enfer, et on n'entend pas. Et Dieu pourtant, Dieu parle. Dieu parle par la nature, par la beauté de la nature. La nature parle de Dieu tout le temps. Ce beau dimanche, ce soleil, cette belle température, il faisait un peu trop chaud peut-être il y a 2, 3, 4 semaines, mais aujourd'hui, ces beaux dimanches que Dieu nous donne, ce beau paysage, les arbres, tout cela. Vous vous souvenez, Saint Ignace qui passait par une petite fleur et qui lui disait, tais-toi, disait Saint Ignace à la petite fleur, il n'était pas fou. Tais-toi, je sais de qui tu me parles. Saint Ignace à la petite fleur. Toute la nature parle, les merveilles de la nature, mais nous sommes des scientifiques. Et les scientifiques, dites-moi, s'ils ne sont pas sourds, et savez-vous, la petite fleur pèse tant de grammes, et on met dans ces machines, et on pèse, et on analyse, et on démontre. Voyez-vous, ce n'est rien que. Et tout lui échappe à ce scientifique si fier de lui-même, si orgueilleux. Et notre siècle, sourd à la voix de Dieu dans la nature, à la voix de Dieu, n'est-ce pas, dans les petits-enfants, dans les bébés. Pourquoi aime-t-on tellement les petits-enfants? À cause de, parce qu'ils sont près de Dieu. Et les sans-Dieu ont encore un certain accès à Dieu, un certain contact avec Dieu par l'innocence des petits. Ce qu'on fait maintenant aux États-Unis de cette innocence, je parle des États-Unis, je crois bien que c'est pareil partout, un peu partout, ce qu'on en arrive maintenant à faire de l'innocence de ces petits est innommable. Mais le fait qu'on fait de ces petits matière de péché et que je ne le nomme pas, je vous laisse deviner, je crois que vous savez de quoi je parle. Mais le fait qu'on veut des innocents pour les impliquer dans le péché, c'est perverti. Mais c'est justement qu'on veut quelque chose. Ces pécheurs veulent que ces pervertis veulent quelque chose qui n'est pas encore perverti. Ils sentent encore ce qui n'est pas perverti, ce qui est innocent. Et ils sentent le besoin de salir ce qui est encore innocent. L'innocence leur parle. Dieu leur parle par les innocents, par les petits. Ça, c'est un exemple affreux, beaucoup plus sain et beaucoup plus normal. C'est la joie qu'a des parents, même ceux qui vivent sans Dieu, mais la joie tout à fait saine, la joie familiale qu'ont des parents sans Dieu avec leurs enfants. quand ils n'ont pas besoin de les battre, etc., etc. Sans, n'est-ce pas, quand les petits anges ne sont pas toujours de petits anges, ça c'est évident, mais quand ils font des petits anges, c'est Dieu qui passe, c'est la voix de Dieu. On est sourd. Oh oui, vous savez, mes enfants, oui, voilà, ça c'est mes enfants, et que voulez-vous, ça c'est pas Dieu, etc., etc. On ne veut pas de Dieu, on est sourd, sourd-muet. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc quand on est dans cet état? Eh bien, il faut que d'autres les amènent à Jésus. D'autres qui savent ce qu'est Jésus. Il faut que les amis de ce pauvre sourd-muet l'amènent à Jésus, de ses amis qui ont entendu. Le pauvre sourd-muet, il ne pouvait rien entendre sur les miracles de Jésus. Les autres ont entendu. Ils savent que ils entendent que Jésus passe. Ils amènent le pauvre sourd-muet. Nous autres, mes chers amis, vous et moi, nous sommes au courant de Jésus. Nous sommes au courant de la bonté de Jésus. Nous voici à la vraie messe. Jésus a fait à chacun d'entre nous de grandes grâces pour que nous soyons ici aujourd'hui pour assister à la vraie messe, au vrai sacrifice. Nous sommes au courant. En dehors, dans le monde là, combien ne sont pas au courant? À vous et à moi, alors, de les amener à Jésus. Cette responsabilité nous incombe et Dieu nous en demandera compte. Bien sûr, vous me direz, il est quasi impossible d'amener les pauvres gens aujourd'hui. Je suis d'accord. Dieu nous ne demandera pas d'avoir fait l'impossible ou d'avoir essayé de faire l'impossible. Mais il nous demandera d'avoir fait le possible quand même. Et si vous et moi, nous représentions mieux notre Seigneur Jésus-Christ, si les autres pouvaient voir, si Dieu passait par nous, comme il passe par la petite fleur et comme il doit passer par le petit bébé, par le petit garçon, par le petit enfant, si Dieu passait par nous comme il devrait passer, n'attirerions-nous pas les âmes vers notre Seigneur? Cela, ils nous le demanderont. Nous devons rendre compte des grâces que nous avons reçues en ayant compris la tradition et l'importance de la tradition. Et c'est cela donc, c'est au juste de prier pour la conversion des pécheurs. Vous vous souvenez, Notre-Dame à Fatima, elle disait à ses trois petits enfants, après leur avoir montré les feux de l'enfer, vous vous souvenez, un océan tout en feu, avec comme un braise au centre qui jetait les âmes et les démons comme des étincelles qui retombaient sans poids avec des cris horribles, noirs et transparents en même temps, la forme des démons et des âmes. Et elle leur ayant montré cela à des petits enfants de 9, 8, 7 ans, elle leur dit, priez pour les pécheurs, pour les pauvres pécheurs qui vont en enfer parce que personne ne prie pour eux. Alors vous et moi, mes chers amis, par nos pauvres prières, si vous vous connaissez, vous pouvez bien dire, mes prières ne valent pas grand-chose, je suis complètement d'accord. Mais devant Dieu, la Sainte Vierge peut prendre ces riens et en faire quelque chose. Notre Seigneur prend deux petits pains et cinq petits poissons, ou cinq pains et deux petits poissons, je ne me souviens pas, et on nourrit une multitude de milliers et des milliers de personnes. Alors nos pauvres petites prières, donnons-les à Jésus et Marie, à Marie surtout, pour qu'elle puisse les offrir à Jésus et pour qu'il puisse, avec nos prières, convertir les pauvres sourds-muets. Car s'il n'y a rien qui pénètre, c'est d'abord la prière, la grâce, quelque grâce doit pénétrer dans leur état sourd-muet pour que, de quelque façon que ce soit, ils s'approchent de Jésus. Alors, faisons ce que nous pouvons dans notre comportement et dans nos prières pour attirer les milliards et milliards de sourds-muets qui nous entourent vers la vraie vie. Vous savez ce que c'est autrement pour eux? C'est l'enfer. Et c'est l'enfer où, aujourd'hui, ils se précipitent par des millions et des millions et des millions. Kyrie eleison, Seigneur, ayez pitié. Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.